Il est 8h23 à Paris, la revue de presse des journaux français. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, le sursaut républicain.
Des milliers de personnes se sont rassemblées hier soir à Paris et partout en France pour protester contre la multiplication des actes antisémites. Alors qu'Emmanuel Macron se recueillait au mémorial de la Shoah à Paris, il faisait bloc. Place de la République, constate Le Parisien, pour dire stop à l'antisémitisme. Édouard Philippe, le Premier ministre, mais aussi près de la moitié du gouvernement, l'ensemble des partis politiques, à l'exception du Rassemblement national, qui n'était pas invité, les responsables syndicaux, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, les anciens présidents, Hollande et Sarkozy, des anciens ministres. La République, relève encore Le Parisien, a donc répondu présente à l'appel lancé par Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, pour clamer un « ça suffit » unanime face à la vague de haine contre les Juifs qui touche le pays, avec un bon, rappelle le journal, de 74% d'actes antisémites l'an dernier. Une progression suffisamment inquiétante pour qu'Édouard Philippe en appelle à une union sacrée de toutes les forces politiques. Toutefois, commente Le Parisien, toutefois, ce sursaut ne suffira évidemment pas à lui seul à endiguer la dérive observée ces derniers mois. Les mots du président attendus ce soir et plus largement l'attitude de la classe politique dans les prochaines semaines seront tout aussi déterminants.
Malgré tout, Libération parle de rayons d'espoir.
Oui, dans cette atmosphère de haine, de ressentiment, de violence verbale, symbolique et physique qui empeste la démocratie française, le rassemblement d'hier soir a le mérite de rassurer, affirme Libération, rassurer quelque peu, témoigner de la solidarité de la nation avec les Français juifs meurtris, décontenancés, atteints dans leur cœur et dans leur chair par la hideuse répétition des actes de haine. Ils ont été des dizaines de milliers à le faire, de toutes origines, de toutes confessions, de toutes opinions, réunis par une seule volonté, celle de se comporter en citoyens solidaires d'autres citoyens attaqués dans leur être, parce qu'ils savent que s'attaquer aux Juifs, c'est aussi s'attaquer à chacun d'entre nous. Alors, ce mercredi, pointe le journal de la Haute-Marne, Emmanuel Macron doit annoncer devant le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, une série d'actes pour mettre fin à cette spirale d'horreur. En termes concrets, il s'agit de taper très fort, quels que soient les profanateurs, les vociférateurs de propos antisémites ou les barbouilleurs de vitrines, qu'ils soient inspirés par la nostalgie nazie ou par les discours enflammés d'imams salafistes. La priorité n'est pas d'établir les proportions des courants antisémites. Chaque acte doit être puni. Chaque menace aussi, s'exclame encore le journal de la Haute-Marne. Il n'est pas normal que des familles juives doivent quitter leur quartier pour assurer leur propre survie.
À la une également ce mercredi, la disparition de Karl Lagerfeld.
Le dernier empereur, titre Le Figaro en première page. Il était le Kaiser, le dernier monstre sacré. Ce 19 février 2019 marque de fait la fin d'un règne unique dans le monde de la mode, dont Karl Lagerfeld était devenu le plus grand acteur, la boussole incontestée en 50 ans de métier, dont plus de 30 à la direction artistique de la maison Chanel. Créateur omniprésent et visionnaire, poursuit Le Figaro, doué d'une capacité de travail inouïe, il n'aura cessé d'appréhender cet univers avec une intuition sidérante, au point d'en modifier le cours et la compréhension, la visibilité et l'attractivité. C'était un touche-à-tout génial, renchérit l'Est républicain. Un insaisissable pape de la mode, capable de bousculer tous les codes. Lors de l'été 2008, Karl Lagerfeld s'était gracieusement affiché, on s'en souvient, sur d'immenses panneaux publicitaires, vêtu d'un gilet jaune et accompagné de ce slogan, pour le moins efficace, c'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut sauver des vies. Juste un photomontage pour une campagne de la sécurité routière. L'image avait fait le buzz et dopé les ventes avant même que la tunique fluo ne devienne, le temps d'un hiver, la tenue à la mode.
Aux États-Unis, Bernie Sanders est prêt à rempiler.
Présidentiel 2020, c'est reparti mon Bernie, s'exclame Libération. Battu par Hillary Clinton en 2016, le sénateur socialiste du Vermont brigue à nouveau l'investiture démocrate, désormais très populaire, mais âgé de 77 ans. Il espère bien capitaliser sur le récent virage à gauche du parti. En effet, précise Libération, alors que la primaire démocrate de 2020 s'annonce historiquement chargée, avec une dizaine de candidats déjà déclarés et autant de pressentis, la renommée de Sanders lui offre un net avantage. Il est en effet désormais la personnalité politique la plus populaire aux États-Unis. Outre sa notoriété, le sénateur du Vermont dispose d'un autre atout indéniable, pointe Libération. Un réseau national et nourri de soutien qui, pour beaucoup, attendait avec impatience l'entrée en lice de leur idole pour se mobiliser à nouveau.
Et puis parmi les sorties cinématographiques de ce mercredi, Grâce à Dieu de François Ozon, la justice a finalement autorisé la diffusion du film.
Énième rebondissement dans l'affaire Ozon, lance Le Figaro, le long métrage qui retrace le parcours d'anciens scouts victimes d'agressions pédophiles de la part d'un prêtre. Ce long métrage avait été assigné en référé à deux reprises, d'abord par les avocats du prêtre, mais lundi, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de report de la sortie du film Grâce à Dieu, et ensuite par une ancienne bénévole du diocèse de Lyon qui souhaitait faire retirer son patronyme. Là aussi, le tribunal de grande instance de Lyon, précise encore Le Figaro, a rejeté la mise en demeure. Le film sortira donc bien en salle ce mercredi.
Libération qualifie Grâce à Dieu de fiction documentée qui montre, dans le détail, le rude affranchissement des victimes vis-à-vis d'une église dévoyée.
En fait, pointe le journal, même si la culpabilité du père Prénat n'est pas tenue pour acquise, en réalité le film est constamment accablant, aussi bien pour Prénat que pour Monseigneur Philippe Barbarin, l'archevêque de Lyon, dont il montre les diverses stratégies dilatoires et patelines pour surtout que l'affaire n'éclate jamais, bien qu'étant de longue date au courant de ce que son vieil ami pratiquait sur ses jeunes ouailles. Ce que le film réussit le mieux, poursuit Libération, c'est la manière dont il montre le combat complexe d'hommes encore tenus 20 ou 30 ans après les attouchements par un cruel sentiment de culpabilité qu'une institution surplombante, baignée d'amour pastoral, moralement inflexible et pourtant dépravée, leur a imposé, les capturant à un moment de leur jeune vie pour les séquestrer dans un statut aussi intenable qu'inavouable.
Frédéric Couteau pour la revue de presse que vous retrouvez en ligne.